avec Catherine Marie en 2009. C'est un numéro de la revue Sociologie du Travail. Dans la revue Sociologie de l'Art, vous avez codirigé deux numéros sur les stéréotypes. Ils sont aussi. Deux numéros sur les stéréotypes, l'un sur les stéréotypes dans les pratiques artistiques, dans les œuvres, l'autre sur la reconnaissance artistique au prisme des stéréotypes. Et j'en profite pour préciser que cette journée est organisée en regard d'une exposition qui commence jeudi prochain, 8 mars, s'intitule « Femmes-hommes, stéréotypes à l'œuvre » à la Galerie des ateliers d'artistes de Belleville. Il y a d'ailleurs des artistes qui vont exposer présentes dans la salle. Marie Buscato, vous allez donc maintenant éclairer le plafond de verre en art et nous faire partager vos réflexions autour des obstacles et des progressions artistiques.
Merci. Donc vous dites pour le micro si ça convient. Un petit peu plus fort peut-être, plus près. Ça va ? Je ne voulais pas toucher parce qu'il y a tout un... Bien, donc merci beaucoup pour cette invitation. Je vais me présenter rapidement pour ce qui est de mes travaux de recherche avant d'aborder la thématique de la conférence. Donc la première chose importante, je suis une sociologue et plus exactement une sociologue du travail. C'est-à-dire que mes premiers travaux dans les années 90 se passaient dans les centres d'appel, chez Renault, La Poste, enfin, ce genre d'univers. Et j'utilisais l'ethnographie, l'observation directe, avec pour volonté de comprendre qu'est-ce qui se passait dans ces contextes de travail très spécifiques, ces contextes très collectifs. Donc on est loin des mondes de l'art, a priori en tout cas, au premier abord. Et puis j'ai une pratique amatrice très très personnelle et très amatrice, qui est celle de chanteuse de jazz, et différentes choses que je vivais dans le cadre de mes ateliers, formations, stages, etc., en dehors de toute aspiration professionnelle, m'ont donné envie de lancer un journal de terrain, comme je pouvais le faire dans les autres contextes de recherche, en 98. Et puis, les choses ont mûri progressivement. Donc, à ce moment-là, je me posais plutôt la question des relations entre musiciens et femmes chanteuses, dans un monde très, très masculin. On a moins de 10% de musiciens de jazz en France. Et ça a donné lieu, en 2003, premier article, des invitations et un travail continu, qui s'est enchaîné en 2005 par une deuxième enquête sur les femmes instrumentistes, où là, la question, c'était plus des femmes dans une position plutôt féminine, socialement féminine, le chant, mais dans une position plutôt masculine, celle d'instrumentiste. Bon, là, je parle en termes strictement numériques, avant même de se poser la question de la qualification sociale qu'on peut lui donner. Et ça a donné lieu à un ouvrage en 2007 sur les hommes et les femmes du jazz, et aux éditions CNRS. À partir de là, j'ai eu la chance de rencontrer des gens comme Catherine Marie, avec laquelle j'ai par exemple co-dirigé ce numéro, Le plafond de verre dans tous ses éclats, où on a fait écrire des gens qui travaillaient sur des domaines très variés. Et puis on a aussi fait un retour sur la littérature, les femmes dans la police, les femmes et les hommes informaticiennes, ingénieurs, Catherine Marie c'était sa spécialité, mais scientifiques, artistes, entre autres cas. J'ai eu l'occasion de retravailler Catherine Marie et Delphine Naudier. On a organisé une journée d'études sur la question du travail, du genre et de l'art en 2009, qui a donné lieu à publication, où à nouveau on fait venir différents chercheurs qui travaillent sur la danse, sur les arts plastiques, sur la musique, et on se pose les questions de qu'est-ce qui se passe de manière un petit peu plus large, d'un point de vue sociologique, hein, donc vraiment sur le contemporain. Et puis ces deux numéros dont vous a parlé Nathalie Cré, sociologie de l'art, donc encore une autre collègue, sociologue des arts également, qui travaille sur le genre, Marie Leoncini. Là encore, on invite un ensemble de chercheurs français, étrangers, qui travaillent sur différents arts, le cirque, la pop, etc. Et en septembre, on était six, on a co-organisé un colloque qui s'appelle « Le genre à l'œuvre ». On est en train maintenant de travailler sur les actes du colloque, plus de 50 communications, et puis des figures sur ces questions-là, Geneviève Cellier, Griselda Pollock, etc. Donc ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est un peu une synthèse, très à les limites de la caricature, évidemment. Donc je vais essayer de donner tout ce qui fait qu'on vous ne le prenez pas sur le mode caricatural, et moi-même je m'efforce de ne pas le faire. Mais finalement, essayer de comprendre ce qui fait que les femmes, comparativement aux hommes, donc c'est toujours en comparaison aux hommes que la question est posée, encore aujourd'hui, ont plus de mal à accéder au monde de l'art, ont plus de mal à y rester, ont plus de mal à se voir reconnaître, comparativement aux hommes qui auraient à peu près les mêmes ressources, les mêmes compétences, les mêmes capacités. Donc c'est évidemment enquête après enquête que ce constat se renforce et se travaille. Donc dans un premier temps, je parlerai plutôt de ce qu'on peut appeler des obstacles, des barrières, donc les processus sociaux qui vont plutôt limiter, créer des difficultés. Et puis quand même, regardez aussi, aujourd'hui on est en 2012, il y a quand même de plus en plus de femmes artistes, parfois au plus haut niveau. Donc, qu'est-ce qui fait quand même qu'il y a des personnes qui accèdent? Et je crois qu'on reverra mieux ça avec les deux historiennes qui me suivent, mais il y a toujours eu quand même aussi quelques femmes ici ou là, même dans les moments les plus durs. Donc, même on est dans une période de plus grande féminisation que l'histoire ait pu connaître dans les mondes occidentaux, avec un contexte très spécifique évidemment de la définition de ce qu'est l'art et de comment on peut en vivre. Mais on essaie de comprendre ces transgressions et les processus sociaux. Alors, le constat, je vais quand même prouver très rapidement que les femmes, c'est plus difficile pour elles partout que pour les hommes. Donc, c'est dit plus difficile pour elles dans des mondes qui sont majoritairement masculins. On a encore aujourd'hui des mondes de l'art, dans les pays occidentaux, qui sont très majoritairement, voire pratiquement, où les femmes sont une toute petite minorité, moins de 10%. Donc, c'est par exemple le monde du jazz, ça va être par exemple la direction d'orchestre. Ça peut être aussi quelques spécialités. Si on va dans le cirque, il y a peu de femmes clowns, d'où le travail de Marie-Carmen Garcia sur cette question. Donc on a des chercheurs qui ont travaillé sur ces domaines-là où il y a encore, en 2012, très très majoritairement des hommes. Le rock, les musiques populaires plus largement, le rap, etc. Bon, ça c'est, et dans ces cas-là, non seulement il y a très peu de femmes, mais les femmes sont dans des positions difficiles de marginaliser. C'était d'ailleurs un des éléments du titre de mon ouvrage de 2007 sur le jazz. Non seulement elles sont rares, mais en plus c'est vraiment très difficile quand elles sont dans ces positions rares. C'est un constat qu'on rencontre quand on travaille sur les entreprises, quand on travaille sur la police, quand les femmes sont rares, c'est des femmes particulièrement préparées à être là et qui vont vivre des obstacles particulièrement forts. Mais si on va du côté des arts qui sont déjà beaucoup plus féminisés, par exemple la musique d'orchestre, Hyacinthe Travet a fait tout un travail pour la France et on a d'autres travaux européens et aux États-Unis sur cette même question. Là, on est plutôt à 30-40%. On continue, là encore, à avoir des hommes qui ont des accès plus simples. On continue à avoir des phénomènes de discrimination observés, indirects le plus souvent, évidemment. On continue à avoir des plus grandes difficultés pour les femmes que pour les hommes à être reconnues au plus haut niveau. Même s'il y a des femmes qui arrivent au plus haut niveau, il y a quelques femmes chefs d'orchestre, il y a quelques femmes qui sont premiers violons dans les orchestres, etc. Donc pour donner l'exemple de la musique d'orchestre, la littérature, les travaux de Delphine Naudier vont dans le même sens, les arts plastiques, où on est quand même, il y a une bonne présence des femmes, mais les travaux montrent aussi que donc ça a été transformé avec une perspective historique pour la France, des travaux un peu anciens de Dominique Pasquier, des travaux plus récents d'Alain Quemin, qui travaille plutôt là sur l'élite, puis des travaux en cours, je crois, de Séverine Sofiaud, qui nous diront des choses dans le futur, je pense, là-dessus. Et puis maintenant, on a des mondes majoritairement très mixte ou majoritairement féminin, c'est la danse ou le théâtre. Et là encore, on retrouve, étrangement, dans des domaines où il y a des places pour les femmes et des places pour les hommes, une plus grande difficulté pour les femmes, finalement, de se voir reconnues et d'accéder aux positions de direction. Donc, par exemple, le travail de Janine Ranou, Yonela Roaric sur la danse, contre toute attente de leur part, c'est-à-dire que ça leur est un peu arrivé par hasard, et travailler sur les danseurs et les danseuses, travailler statistiques sur l'ensemble de la population française, et elle constate statistiquement qu'il y a beaucoup plus de femmes, même chorégraphes, mais c'est les hommes qui sont beaucoup plus souvent dans les positions les plus prestigieuses et les plus valorisées. Et évidemment, après, elles se sont efforcées de l'expliquer, ça reviendra dans un de mes exemples. Donc ça, c'est intéressant de voir que même dans ces mondes-là, comme le théâtre, la mise en scène, on trouve peu de femmes, et peu de femmes, il y a Ariane Mouchkine, donc ça c'est un travail de Serge Proust qui commence sur ces questions-là et qui montre bien. Alors, en mise à scène, on a de plus en plus de femmes, mais on en a beaucoup moins, et elles sont beaucoup moins réputées, et beaucoup moins à la tête des directions. Donc Ren Pratt a fait deux rapports successifs, où elle a chiffré, en prenant un peu appui sur l'ensemble des enquêtes dont je parle, mais aussi des chiffres plus concrets, qui montrent que les hommes sont surreprésentés dans toutes les positions de direction. Alors même que la culture est un domaine féminin, dans les pratiques culturelles, les femmes sont surreprésentées, dans les pratiques amatrices, elles sont très présentes, mais dès qu'il s'agit de diriger, elles le sont beaucoup moins. Donc, partant un peu de cet ensemble de constats, on a aussi des travaux qui se sont posés la question des conditions d'emploi, de rémunération. Donc, il y a une enquête qui a été faite par Coulongeon, Roaric, Cravé sur les danseurs, les comédiens. Donc là, on était dans les arts du spectacle. Et les musiciens qui montraient que, toutes choses égales par ailleurs, les hommes sont toujours mieux payés en moyenne. Hein. Évidemment, ça n'empêche pas qu'il y ait une femme qui soit mieux payée qu'un homme, encore individuel. Mais statistiquement, c'est ça qui ressortait. Donc, quels que soient les critères qu'on regarde, reconnaissance, direction, rémunération, conditions d'emploi, Marine Cordy, qui travaille sur le cirque, montre que les femmes sont moins souvent que les hommes dans des positions stables et dans des positions reconnues par un ensemble de mécanismes qu'évidemment qu'elle s'efforce d'expliquer dans ses travaux. Donc, quels que soient les endroits, même si elles sont là, elles sont moins souvent dans les bonnes conditions pour être reconnues. Sachant quand même que tous ces travaux montrent très bien qu'on est dans des mondes très difficiles. Il y a une précarité énorme, il y a des difficultés, des difficultés à en vivre avec beaucoup d'allocations sociales parfois pour juste réussir à se maintenir, des sacrifices financiers énormes avec des rémunérations très très faibles, voire inexistantes, pas de sécurité sociale. Une difficulté à être reconnue. Donc, par exemple, les travaux de Bernard Lahire qui vont dans le même sens que ceux de Delphine Naudier sur la littérature. Presque 90% des écrivains qu'ils rencontrent en Rhône-Alpes n'en vivent pas, tout simplement. Hein, donc ils vont publier, dire que c'est au cœur de leur vie, mais la question même d'en vivre est en soi un enjeu pour les hommes comme pour les femmes. Donc dans ce contexte où on a une extrême difficulté pour tout le monde, pour les femmes, c'est encore plus difficile. Donc une fois ça dit, on est au 21e siècle aujourd'hui, les obstacles formels qui ont été évoqués par Nathalie Cré ont disparu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut plus parler de discrimination directe au sens où les femmes vont dans les écoles, les femmes ont le droit de pratiquer, on n'a pas interdiction de dessiner des nus ou de chanter dans des clubs de jazz, il n'y a pas de ségrégation officielle, c'est contraire à la loi, on est bien, et ça fait quand même quelques années que ça dure. Donc, pour expliquer finalement ce qui se passe, on ne peut plus regarder du côté des règles formelles ou du côté de discrimination directe. On va aller regarder du côté des mécanismes, des processus sociaux, et c'est là où le sociologue ou la sociologue a éventuellement ses chances de pouvoir apporter quelque chose au schmilblick, on va dire. Alors, qu'est-ce que ça donne par rapport à ce que je vais vous présenter? En fait, je vais essayer de vous rendre compte de ces processus sociaux qui expliquent aussi bien les difficultés d'entrée, de reconnaissance, et qui parfois aussi explique pourquoi ça rentre. Trois choses quand même à dire d'emblée. On a un titre qui est trompeur, c'est-à-dire, je parle de plafond de verre, si vous avez remarqué, il est entre guillemets, comme il l'était dans le titre du numéro qu'on a co-dirigé avec Catherine Marie. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une métaphore qui suggérerait, c'est une métaphore qui est venue de l'entreprise, qui n'était pas du tout prévue pour l'art, puisqu'elle suppose l'idée qu'il y a une hiérarchie et que les femmes, à un moment donné, se cognent la tête à un certain niveau hiérarchique, ils n'arrivent pas au poste de direction ou au conseil d'administration. Cette métaphore, donc très efficace, je dirais, sur le plan rhétorique et sur le plan politique, puisqu'elle est énormément diffusée et utilisée pour dire qu'il faut lutter contre la discrimination au plus haut niveau, éventuellement mettre 30% de femmes députées, sinon on n'y arrivera jamais, puisqu'elles sont bloquées pour rentrer peu députées. Les chercheurs en sociologie, mais aussi en histoire, en sciences politiques, disent, attention, cette métaphore, elle est trompeuse, parce que ce que montrent toutes les recherches, c'est que c'est ce qu'on appelle en anglais un cumulative disadvantage, c'est-à-dire une inégalité cumulative. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, dès qu'on commence à travailler sur ces questions-là, on ne peut pas dire, tiens, à 35 ans, au moment où, là, ça bloque. Ce que montrent les recherches, c'est qu'en fait, c'est une sorte de différents moments qui peuvent commencer dès l'enfance dans les mécanismes explicatifs, hein, la manière dont les jeunes filles ou les jeunes garçons sont socialisés à certains comportements ou à certains stéréotypes. Ça continue éventuellement à l'école, ça peut éventuellement se jouer à l'entrée, ça peut se jouer aux différents moments de la carrière, ça peut se jouer évidemment en lien avec la vie privée, les enfants, etc. Et donc finalement, ce qui compte, ça a amené d'ailleurs d'autres gens à trouver d'autres métaphores. Moi, je les trouve toutes avec leurs difficultés. Le tuyau percé, avec cette idée. L'ascenseur à l'envers. Enfin bon, il y a eu plafond à caisson. Enfin, vous en passez des meilleurs. Il y en a beaucoup, beaucoup de métaphores qui se sont succédées avec volonté de mieux rendre compte du fait que c'est un mécanisme cumulatif. De mon point de vue, le plus simple, c'est de dire que c'est un mécanisme cumulatif. Donc, c'est une dynamique temporelle, donc deuxième point, du coup, c'est quand on travaille sur ces questions-là, il faut se poser la question dans le temps. Et troisième point que montrent également les recherches en préambule, c'est que donc ces différents processus, ils ne sont pas très utiles dès qu'on veut penser au niveau individuel. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais vous présenter un exemple, vous allez pouvoir vous dire, mais ça ne marche pas dans mon monde de l'art, ou ça ne marche pas là où je me trouve à Belleville, ou ça ne marche pas avec ce que moi j'ai vécu. Ou au contraire, vous pouvez dire, ah ouais, là, ça marche super bien. Ce que ça montre, c'est que c'est des processus qui peuvent être présents dans tel monde de l'art, mais beaucoup moins dans tel autre, qui se cumulent d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire, finalement, là, on est obligé d'aller dans chaque cas pour commencer à comprendre cas monde de l'art, cas aussi contexte géographique. On a des cas qui se passent en Tunisie où, évidemment, les conditions sociales sont différentes, mais elles nous éclairent quand même aussi sur ce qui peut se passer éventuellement en France ou en Allemagne. Et l'Allemagne et la France, ce n'est pas la même chose en littérature, etc., etc. Et puis aussi le cas individuel, c'est-à-dire d'un individu à l'autre, des choses peuvent se passer contre toute attente, même si les processus, a priori, auraient dû faire que cette personne ne voit pas le jour dans ce monde-là. Donc maintenant, à partir de maintenant, un petit peu ces grandes idées énoncées, on va aller regarder du côté des obstacles, de ce qui fait que c'est difficile de rentrer, difficile d'être reconnu, et je vais vous présenter quatre processus sociaux qui apparaissent dans les recherches. On vous donne à chaque fois un petit exemple. Évidemment, l'exemple, il est caricatural, partiel. Donc, si ça vous intéresse, il faut aller voir la référence et puis lire le cas dans sa globalité. Les chercheurs ne parlent pas que de ce dont je vais les utiliser pour illustrer. Mais évidemment, chaque chercheur ou chaque chercheur évoque finalement une multiplicité de processus. Hein, si on est ensemble, on est d'accord avec ça. C'est une dynamique temporelle, cumulative. Et donc, aucun des cas que je vais présenter ne le sera dans sa complexité, dans sa globalité. Je vais juste l'utiliser pour essayer de montrer que ce processus apparaît dans différents contextes, et donc on peut imaginer que c'est un processus peut-être présent dans le contexte que vous connaissez, les arts plastiques. On m'a demandé d'éviter trop d'exemples sur les arts plastiques, notamment parce qu'après, on va parler beaucoup d'arts plastiques. Mais bon, ça, après, c'est à vous de voir si éventuellement ça fait écho ou pas. En tout cas, il n'y a pas de contradiction entre ce que je vais dire et ce que je connais des travaux sur les arts plastiques. Donc, accès périlleux, une difficile reconnaissance, on dirait que c'est une première partie de cette conférence. Quatre processus sociaux. Le premier, qui a été très travaillé par les chercheurs en histoire comme en sociologie de l'art d'ailleurs, qui est qu'en fait, les femmes sont, quand elles sont dans les mondes de l'art, sont plus souvent dans des arts dits mineurs. Donc là, on voit bien qu'il faut mettre des guillemets, ou dans les genres mineurs, ou dans les spécialisations mineures, ou dans les instruments mineurs, c'est-à-dire ceux qui sont moins valorisés dans ces mondes de l'art, notamment parce qu'ils sont considérés comme féminins. Donc il y a une sorte d'association entre les femmes artistes, la tendance à se spécialiser dans des arts, des genres, ou des rôles, ou des instruments dits féminins, et la dévalorisation qui est associée à ces arts féminin. Donc, qu'est-ce que ça veut dire très concrètement ? Par exemple, les études sur le monde du cinéma, Brigitte Rollet, Geneviève Cellier, nous montrent qu'on est dans un monde très sexué, où les femmes sont surreprésentées dans les domaines les moins valorisés. Donc, on va avoir beaucoup de femmes maquilleuses, beaucoup de femmes qui vont être plutôt dans les costumières, évidemment actrices dans les rôles de femmes, avec très souvent beaucoup moins de rôles féminins que de rôles masculins, notamment dans les rôles dans les premiers rôles et dans les rôles structurants. Et les hommes vont être plutôt du côté des métiers ou des activités les plus valorisées. Alors évidemment, la réalisation de cinéma, donc Brigitte Rollet et Geneviève Cellier montrent qu'encore aujourd'hui, on a moins de 20% de femmes réalisatrices, et vraiment, ça résiste. Donc on a évidemment des femmes qui sont connues et reconnues, mais il y en a beaucoup moins que d'hommes. Et il y en a beaucoup moins en tout. Et c'est pareil à la technique. Or, la technique est, dans le monde du cinéma, mieux valorisée en termes d'emploi, d'argent, que le monde ce qu'on appelle les petites mains. C'est pas moi qui parle, c'est le milieu du cinéma. Le monde du cinéma. Donc là, on a un cas qu'on retrouve dans le théâtre. Serge Proust, qui a commencé à travailler sur le festival d'Avignon, montre la même chose. Donc des ségrégations qui vont tout de suite faire que... Alors maintenant, on va dire, mais là, on ne parle pas de femmes et d'hommes artistes, on parle de monde et de répartition des rôles dans les mondes. Mais donc là, on va aller dans d'autres exemples. Au cinéma, toujours, Bilby, travaille sur le cinéma Hollywood, montre que les femmes sont moins présentes que les hommes dans tout ce qui est scénario, scénariste et réalisatrice de cinéma. Mais elles sont surreprésentées dans ce qu'on appellera des genres féminins, l'émotion, la comédie, la sentimentale, là où les hommes sont plutôt dans le film d'action. Et d'ailleurs, l'Oscar qui avait été donné, il avait été utilisé par Denis Bilbey dans une conférence, l'Oscar donné pour Les Dés Mineurs, qui était le premier Oscar à une femme réalisatrice, et c'était dans un monde d'hommes, puisqu'elle était Les Dés Mineurs, en Irak, la guerre, etc. Donc elle avait doublement transgressé. Transgressé par rapport aux statistiques, et par rapport donc aux habitudes du milieu. Je reviendrai sur ce cas par rapport à un des processus que je vais décrire. Donc on va trouver cette même question dans les arts plastiques. Marie Goyon a fait un article dans un des numéros que vous a présenté Nathalie Cré, où elle montre comment les femmes natives qui sont au Canada, elles vont travailler à partir de la broderie, de la couture, et ben, c'est pas de l'art, c'est pas des arts plastiques. En plus, elles sont natives. Donc là, c'est comme une histoire de l'homme blanc tout à l'heure dont on parlait. Là, elles sont femmes et en plus indiennes, indigènes, comment ils disent? Aborigènes. Je crois que c'est au Canada, c'est l'expression qui est utilisée. Et elles montrent comment elles ont rien que de faire reconnaître leur art comme de l'art. Elles disent, ben, donc elles ont eu tout un travail de rhétorique relayé par dans des associations aussi qui étaient en train de défendre les droits de ces personnes et aussi les droits des femmes, en disant, oui, c'est d'accord, on part de la couture, on part de la broderie, donc activité féminine, mais ce qu'elles font, elles racontent en plus des choses plus biographiques liées à leur parcours personnel, mais on est bien dans de l'art, donc elles vont se battre pour être exposées dans des lieux artistiques et pas dans des lieux folkloriques, etc. Donc on a des cas comme ça qui montrent, dans les spécialisations instrumentales, dans le jazz, les femmes chantent. Elles sont pas très nombreuses, mais elles sont très majoritaires au chant. Le chant est, dans pratiquement toutes les activités musicales, une activité où on va retrouver les femmes. Le chant, il s'avère dans le jazz que c'est très dévalorisé. C'est très visible, c'est très commercial, mais musicalement, c'est pas une vraie musicienne dans les interactions qu'il peut y avoir entre les musiciens. Donc là, on est dans quelque chose que Griselda Pollock avait travaillé plus pour penser l'histoire de l'art, où on a des normes qui font qu'il y a des arts sérieux et des arts moins sérieux, des arts nobles et des arts plutôt mineurs. Et les femmes sont surreprésentées dans des arts qui sont jugés comme mineurs, souvent rattachés au féminin. On retrouve ces mêmes phénomènes dans le domaine professionnel. Les domaines professionnels féminins, infirmières, institutrices, sont, comme l'ont montré des recherches historiques et sociologiques, moins souvent valorisés, à un niveau parfois de qualification scolaire égale, que les domaines techniques. Les arts ne se comportent pas différemment des autres domaines. Mais on retrouve Dominique Pesquet, dans les années 80, qui a travaillé sur les arts plastiques, montrait que les femmes étaient beaucoup plus souvent dans le figuratif que les hommes, par exemple, en proportion, qui étaient à l'époque moins bien valorisées que l'abstrait, etc. Deuxième processus social. La force des stéréotypes sexués péjoratifs. Donc, on a déjà finalement démarré là-dessus, puisqu'on est sur cette idée du féminin qui serait plutôt dévalorisé. Mais cette fois, on va dire qu'on va l'autonomiser comme processus, dans le sens où ça peut toucher à beaucoup d'autres choses. Ça peut toucher à la sexualité, ça peut toucher, comme va le montrer la performance en acte, à la maternité, ça peut toucher à l'autonomie, à la capacité créatrice, ça peut toucher à la virtuosité. Donc, les études, dont les deux numéros qu'on a faits, n'ont fait qu'évoquer quelques exemples, mais dans la bibliographie d'autres exemples d'autres chercheurs, montrent que des stéréotypes sexués peuvent rendre la vie un peu difficile pour les femmes artistes lorsqu'elles veulent s'exprimer dans l'art. Premier type de manière dont ça peut rendre la vie difficile, c'est que quand des femmes investissent des domaines masculins, ça peut leur rendre la vie difficile parce qu'elles vont avoir du mal à s'exprimer en tant que telles. Donc, par exemple, dans les arts de performance, Nelly Kemener montre comment les premières femmes humoristes, et encore aujourd'hui, les femmes humoristes ont du mal à faire rire. Parce qu'une femme ne fait pas rire. Donc, il y avait des habitudes de manière de faire rire, plutôt masculines, plutôt associées à des hommes, jusqu'à d'ailleurs caricaturer les femmes. Par les hommes, des femmes vont essayer progressivement de créer un humour qui soit féminin, qui soit universel, qui soit aussi légitime et qui soit aussi regardé. Marie-Carmen Garcia travaille sur les clowns, montre la même difficulté. Donc c'est aussi bien de l'extérieur que de l'intérieur. C'est-à-dire que les femmes elles-mêmes ont du mal à sortir des stéréotypes qui leur sont assignés sur qu'est-ce que c'est qui fait rire.
Donc, sur les clowns de Marie-Carmen Garcia, elle montre comment elles ont beaucoup de mal de sortir de deux types de clowns, le clown asexué et le clown femme qui fait beaucoup rire. Hein, un peu, voilà. Donc, la complexité existe beaucoup moins dans le clown féminin que dans le clown masculin, du fait de ces stéréotypes qui vont jouer sur la capacité créatrice, hein, avant même de se poser la question de la réception. Deuxième manière dont ces stéréotypes peuvent jouer, c'est dans la manière dont ça peut être reçu. Alors, reçu, évidemment, par le public, c'est-à-dire que on a par exemple un travail de Foppel et Schmutz, que je ne peux pas trop détailler là, mais qui ont travaillé sur les critiques de Rolling Stones, et qui ont montré que les femmes de la pop, hein, les Madonna et PJ Harvey, enfin des gens très connus, même quand elles ont été consacrées, elles ont atteint le plus haut niveau, sont beaucoup moins légitimes musicalement dans ces critiques que les hommes. On leur associe souvent de l'hystérie, là c'est le stéréotype autosexualité, ou le fait qu'il y a des mecs derrière, sinon elles n'auraient pas pu y arriver. Bon, on oublie de dire que les hommes ont aussi des hommes derrière parce que c'est une équipe en fait, hein, le rock comme tout autre, beaucoup d'activités artistiques en fait, même la littérature, il faut des éditeurs, des attachés de presse, etc. Et donc elle montre que ces stéréotypes qui vont faire, qu'elle repère dans les critiques de Rolling Stones, même avant la consécration, sont évidents, et les hommes et les femmes, par exemple un homme qui est séduisant, ça ne va jamais nuire à la qualité musicale. Une femme qui est séduisante, la question, on parle plus musique. Elle est un objet sexuel. Donc, il montre très bien que même une fois qu'elles sont consacrées, qu'elles ont fait des grosses ventes, Sinéad O'Connor, enfin, il y a des exemples très, très réputés, même après, les critiques ne vont jamais être aussi neutres et positives pour ce qui est de reconnaître leur musicalité. Je ne parle pas de leur vente, je parle de leur musicalité et de leur capacité finalement à tenir la route aussi. Hein. C'est ça qui se joue dans reconnaître la musicalité versus être un objet sexuel qui va disparaître une fois qu'il aura passé l'âge. Donc, c'est aussi ça qui se joue derrière. Donc, les stéréotypes peuvent jouer dans ce type de réception, mais ça peut être aussi les collègues. Hein, si le collègue, dans le jazz, montrait que la séduction était un enjeu énorme, comme dans tous les autres arts, d'ailleurs, et comme dans la société en général, les hommes séduisent, les femmes séduisent, mais c'est pour les femmes que c'est une complication, parce que c'est très difficile d'avoir des relations complices avec un homme quand on le séduit. Donc, soit elles apprennent à fermer la séduction, c'est leur terme, donc à serrer la main, à être distante, à ne pas aller boire des pots pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, mais du coup, on n'a pas trop envie de jouer avec elles. Soit bah, elles se laissent aller, elles sont tranquilles, et elles ont régulièrement un collègue qui a envie de passer aux choses sérieuses. Et ces choses sérieuses vont faire que si elles disent non, la relation se coupe, et si elles se disent oui, après, derrière, bon, bah, il vaut mieux que ça devienne stable. Donc, on a comme ça des stéréotypes qui peuvent jouer vraiment dans des contextes interactifs, ou au contraire dans des contextes... juste créatif, très, très personnel, très subjectif. Hein. Donc, nous, notre boulot, c'est... Il y avait un travail qui a été fait sur la première chef d'orchestre suisse, et chaque fois qu'elle était prise en photo, elle était dans sa cuisine ou avec un enfant. Et dans les années 60, ben, elle était premier prix du conservatoire français, elle ne recevait pas d'appel, et quand elle demandait pourquoi, on disait « Mais parce que tu es mariée, tu as des enfants, donc tu ne peux pas. Hein, » Donc, bon, là, on est au début des années 60, ça a peut-être changé. Mais on montre, là, le stéréotype peut vraiment jouer à tous les niveaux. Elle a un enfant, donc elle ne va pas travailler, ou est-ce qu'elle est capable de diriger, etc. J'avance un petit peu. Troisième processus, les réseaux sociaux très masculins. En fait, ce qui ressort dans tous les travaux sur les mondes de l'art, sans même se poser la question des rapports femmes-hommes, hommes-femmes, c'est que les mondes de l'art sont rarement structurés, organisés, de manière très nette, et donc ce qui va compter beaucoup, c'est les réseaux sociaux, la capacité à les entretenir avec des collègues, mais aussi avec des critiques, avec des attachés de presse, avec des agents. Et il faut leur inspirer confiance, il faut leur donner envie de travailler pour soi, il faut éventuellement réussir à travailler avec eux. Donc dans des activités très collectives comme le cinéma, ça peut paraître évident. Dès qu'on regarde un making-of d'un film au cinéma, on voit bien que le fameux réalisateur est derrière lui, ou la fameuse réalisatrice a toute une équipe parfois connue depuis un certain temps. Mais c'est aussi le cas dans la littérature. Delphine Naudy actuellement fait un gros travail sur les attachés de presse. Elle montre bien l'impact énorme que peuvent avoir les attachés de presse et le fait qu'elles prennent en main telle ou telle carrière littéraire et qu'elle lui donne une réalité économique et artistique. Donc ça, une fois ça dit, il s'avère que ces réseaux sont dans tous les domaines où la question a été posée. Hein. Il n'y a pas encore beaucoup de travaux non plus sur cette question. Ces réseaux sont plus souvent masculins et favorables aux hommes. Donc c'est par exemple les travaux de Ranou Roaric dont je parlais tout à l'heure sur les chorégraphes, qui montrent que ce qui fait que les hommes chorégraphes sont plus nombreux en proportion que les femmes chorégraphes, alors même qu'ils sont beaucoup moins nombreux en danseurs, c'est que les hommes ont des réseaux masculins, des réseaux muscles mixtes et des réseaux féminins, alors que les femmes ont plutôt des réseaux féminins. Et le simple fait que elles n'aient pas accès à toute la palette de la société fait que leurs réseaux sont moins efficaces pour avoir accès au... pour passer du solo, les femmes sont surreprésentées dans la chorégraphie en solo la chorégraphie à 30 danseurs au théâtre de la ville. Il y a quand même une hiérarchie assez nette. Non pas qu'on ne puisse pas faire des solos au théâtre de la ville, c'est pas l'idée. Mais c'était pour un peu... Là encore, il faut aller dans le détail de leur étude statistique là-dessus. Non. On retrouve cette chose-là, Bilby et Bilby, dont je parlais tout à l'heure, sur les scénaristes de télévision, qui ont un cas extraordinaire. Ils ont pris tous les scénaristes de télévision et de cinéma Hollywood sur plusieurs années. Ils ont regardé leur premier succès, puis ils ont regardé ce qui leur arrivait après. Et ce qu'ils ont montré, c'est qu'il valait mieux être un homme blanc de moins de 50 ans. Parce qu'est-ce qui se passait ? C'est qu'en fait, à niveau de succès de démarrage égal, c'est un marché du travail spécifique, vous avez ce qu'on appelle les agences de talent. Et l'agence de talent, elle va repérer des scénaristes, elle va les prendre en main, et puis elle va leur trouver du boulot. Et ces agences de talent semblent privilégier les hommes plutôt blancs, comparativement aux Afro-Américains, plutôt moins de 50 ans, comparativement. Donc ça, c'est des statistiques et un mécanisme. Donc là, le réseau social, il s'appelle l'agence de talent, alors que dans un autre domaine, le réseau social va s'appeler les copains, par exemple en jazz, les gens se recrutent entre eux. Le premier réseau social, c'est d'abord les collègues et les musiciens avec lesquels on est en train de... avec lesquels on va... Donc, je vais arrêter de vous regarder, comme ça je serai... Voilà. Donc ça, c'est les réseaux sociaux entre artistes et professionnels de l'art, qui semblent plus souvent favoriser les hommes que les femmes. Là encore, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des femmes qui sont très bien insérées dans les réseaux sociaux et des hommes pour qui c'est la vie est très dure. Hein. C'est comparativement. Les deux mécanismes qui apparaissent, mais là, on est dans quelque chose d'un petit peu plus, à mon avis, à creuser encore et à travailler dans des enquêtes à venir. Il y a un premier mécanisme qui semble expliquer ça, c'est que les fonctionnements sont masculins. C'est-à-dire que les femmes sont plus socialisées sur des normes et des comportements et des goûts féminins. Les hommes sont plus souvent socialisés sur des comportements, des goûts, des affinités masculines. Et quand on est ensemble, dans les mondes de l'art, on ne fait pas que de l'art. On passe beaucoup plus de temps à boire des pots, à travailler de manière un peu implicite, les cocktails, les soirées, les vacances entre copains, etc. Et dans ces moments-là, finalement, les affinités entre hommes sont plus faciles à établir que des affinités entre hommes et femmes. Et éventuellement entre femmes, mais il s'avère que ce n'est pas les femmes qui ont le pouvoir la plupart du temps dans les mondes de l'art, ou moins souvent, ou pas nécessairement, en tout cas dans ce sens-là. Donc, puisqu'on peut avoir des femmes surreprésentées, par exemple, chez les attachés de presse ou les agentes, il y a des professions féminines dans les mondes de l'art, mais ça n'a pas l'air de jouer en faveur des femmes pour ce qui est des réseaux sociaux. En tout cas, là où on en est des études. Donc ça, une première chose pourrait être que les socialisations de l'enfance, de l'adolescence, féminin-masculin, pourraient jouer dans le fait que les affinités se font plus naturellement, de manière plus complexe, entre des hommes qu'entre des hommes et des femmes, ou en tout cas, lorsque ces affinités doivent se jouer pour travailler ensemble, hein, pas pour faire des couples ou pour avoir des groupies. Hein. Parce qu'il y a des places féminines dans les socialisations sexuelles, mais ce n'est pas nécessairement des places qui permettent de se revendiquer comme artiste et d'être vécu comme artiste. Deuxième type d'explication, c'est justement toute cette difficulté, tous ces stéréotypes dont on parlait tout à l'heure, qui vont faire que soit, si on est du côté du féminin dans les comportements, hein, et dans l'apparence, dans l'habillement pour une femme, on peut créer la séduction, ce qui peut créer tout ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, les trop de complexité ou pas assez, etc. Ou à l'inverse, si on se comporte de manière dite masculine, dans l'habillement, dans les comportements, dans les relations, les femmes, plus souvent que les hommes qui auraient les mêmes comportements, vont être considérées comme autoritaires, harpies, pénibles. Donc, ces stéréotypes peuvent jouer dans la perception qu'on a de l'autre comme un collègue ou une collègue avec laquelle, sur qui on peut compter, avec qui on peut travailler, etc. Donc, j'ai rencontré ça dans mes cas. Donc, soit parce qu'on est du côté du féminin au sens séduisant, soit on est du côté du masculin au sens affirmé. Et on est bien d'accord, c'est féminin-masculin, c'est à un instant donné une qualification sociale et pas donnée dans l'absolu. On pourrait imaginer une société dans laquelle le féminin est tenu par les hommes et inversement. Quatrième processus social, concilier vie professionnelle et vie familiale. Donc concilier, je le mets avec des gros guillemets, parce que, évidemment, du point de vue des sociologues, c'est déjà une injonction. Donc les recherches dans les mondes de l'art, en fait, montrent deux moments, deux résultats qui sont un petit peu contradictoires. Premier résultat, quand on parle de pionnières, donc on est dans des mondes de l'art où il y a très peu de femmes, la question finalement de la compatibilité entre vie professionnelle et vie privée n'a pas l'air d'être vraiment un enjeu. On a beaucoup de femmes qui disent ne pas, pas un enjeu au sens artistique, hein, c'est un enjeu au sens personnel. C'est-à-dire, les femmes, par exemple dans le monde du jazz que j'ai étudié, mais aussi dans des femmes qui sont à très haut niveau dans la réalisation de cinéma, ou etc., peuvent dire, ben voilà, j'aurai pas d'enfant, ou j'aurai pas de relation stable, ou je vais Delphine Audier demande sur les écrivaines, ben, elles changent de relation pour trouver un homme avec qui ça se passe mieux, du point de vue en tout cas de leur volonté créatrice et capacité créatrice. Ça ne change pas nécessairement les choses pour ce qui est de leur capacité créatrice à long terme, mais en tout cas, c'est des choix. Ou alors, si elles ont un enfant, elles vont en avoir un, éduqué éventuellement avec des grands-parents, le compagnon plus ou moins présent, communauté. Donc, on constate des choses très créatrices du point de vue de la gestion des relations privées. Du côté, une fois qu'on est dans des mondes beaucoup plus féminisés, par exemple, la musique d'orchestre étudiée par Hyacinthe Ravet, là, effectivement, les femmes vont en partie se mettre en retrait pour jouer le rôle de mère tel qu'elles pensent qu'il doit être joué dans notre société. C'est-à-dire que plus souvent que les hommes, enfin très souvent, ce qui n'est rarement le cas des hommes, on va être beaucoup plus net, si elles font un enfant, elles doivent le gérer, elles doivent assurer, elles doivent être présentes, elles doivent. Et donc, notamment si leur mari bouge ou s'en va, ou leur compagnon, éventuellement, même une fois qu'ils sont divorcés, c'est plutôt elles qui vont gérer les enfants. Et ça peut jouer dans le fait qu'elles vont aller plutôt vers l'enseignement, ou qu'elles vont retarder une carrière artistique, ou la limiter, ou la rendre. Attendre que les enfants soient grands pour recommencer à créer, etc. Donc, ça, c'est constaté dans les mondes de l'art plus féminisés, la littérature, etc., où effectivement l'enjeu qui n'est pas un enjeu pour les hommes, où la capacité créatrice n'est pas nécessairement considérée comme incompatible avec le fait d'être en couple, même si le couple peut être plus ou moins éphémère, et encore moins avec le fait d'avoir des enfants, apparaît bien comme une incompatibilité pour les femmes, subjective mais aussi objective, dans le fait qu'elles prennent, comme dans les autres mondes, la charge principale de l'éducation et du suivi, en fait, maternel dans ce monde-là. Mais ça ne joue pas pour les pionnières. Les pionnières vont très loin dans le fait qu'elles sont pionnières. Elles vont jusqu'à ne pas avoir d'enfants et parler de sacrifice s'il faut, en disant « moi, je veux créer, je ne veux pas avoir d'enfants ». Si on regarde du côté des ressorts sociaux, on a commencé vers Écarvin, c'est ça, hein ? Très bien. Donc, du côté des ressorts sociaux, des transgressions possibles, etc., il y a une première chose qui apparaît dans les enquêtes, alors historique mais aussi sociologique pour les cas plus restants, notamment de pionnières, c'est ce qu'on appelle en sociologie la sursocialisation familiale. Donc c'est un mot un peu barbare qui consiste à dire que les femmes, comparativement aux hommes, tendent à avoir grandi dans des contextes familiaux plus favorables. Plus favorables évidemment pour devenir artistes. Donc ça peut être évidemment le cas enfant d'artistes ou nièce d'artistes, pas nécessairement de ce milieu-là d'ailleurs, mais avec une socialisation qui accompagne le fait d'être dans ces mondes de l'art, ça peut être aussi d'être d'une origine sociale plus élevée. C'est-à-dire plus souvent que les garçons, elles s'avèrent avoir des ressources sociales venant de milieux très cultivés ou avec des ressources financières, etc. Donc c'est ce qu'on appellera... Donc ça marche évidemment pour les cas historiques où on montre les filles d'eux, mais ça marche aussi pour les cas plus contemporains. Ou sans être fille d'eux, ça peut être dans une famille où il y a quelques artistes ou avoir une socialisation familiale très, très propice au fait d'être à l'aise dans les mondes de l'art, en fait. Et du coup, de pouvoir éventuellement s'y imaginer et trouver sa place. Donc ça, c'est quand les mondes de l'art sont très masculins. Comme pour le cas précédent, le processus social précédent, quand les mondes se féminisent, on se rend compte en fait qu'il y a une sorte de montée vers le haut de cette sursocialisation. C'est-à-dire que les gens qui sont peu reconnus, qui sont ce que Marc Pernaud appelle des musiciens ordinaires, par exemple, hein, qui peuvent éventuellement en vivre, mais pas nécessairement en étant reconnus et en faisant les affiches, et qui font leur activité bien autour de l'art sans nécessairement être reconnus, Là, on rencontre des hommes et des femmes qui se ressemblent pas mal dans leurs origines sociales, dans leurs origines familiales. En revanche, quand on va vers les plus hauts niveaux de réputation ou vers les positions les plus masculines, comme réalisation au cinéma, on retrouve à nouveau des femmes qui sont mieux disposées familialement que des hommes pour se retrouver dans ces positions-là, qui sont des positions encore masculines. Donc ça, c'est un premier mécanisme. Et on le retrouve chez les ingénieurs, on le retrouve chez les policiers. Ça ne veut pas dire que, surtout, évitons la caricature, il n'y a pas que des filles d'artistes ou des filles de cadres sup. C'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire que plus souvent que des garçons, d'accord, équivalents, qui ont les mêmes niveaux de réussite. Deuxième mécanisme, on constate, et c'est vraiment la même chose dans les autres milieux professionnels, la force des règles, des procédures, des dispositifs légaux. C'est-à-dire que il y a un seul monde vraiment où on a besoin de passer des concours, c'est la musique d'orchestre. Les autres mondes de l'art sont plutôt ouverts à l'entrée. Il suffit de dire je suis plasticienne ou je suis réalisateur de cinéma. C'est pas quelque chose où on vous demande d'avoir un diplôme particulier, même si ça peut aider d'avoir fait la FEMIS, mais c'est pas parce que c'est obligatoire. C'est parce que ça participe à un processus de recrutement. Ce que montrent les enquêtes, en fait, c'est que la féminisation, qui est quand même en partie en cours, hein, des mondes de l'art, est en partie impulsée par la démocratisation des écoles d'art, dont on a parlé tout à l'heure. Les femmes peuvent aller étudier dans les beaux-arts, au conservatoire, aujourd'hui de manière équivalente aux garçons, et elles y sont très présentes. Mais aussi, les financements publics qui peuvent être mis en œuvre pour financer des lieux, des festivals, des associations, qui ouvrent la porte de manière volontaire ou non aux femmes. Donc, je vais vous donner quelques exemples. Sylvia Faure, dont on n'a pas encore parlé, qui travaille sur la danse hip-hop, montre que c'est une pratique très masculine qui se passait dans la rue, où en plus les filles non seulement ne devaient pas être dans la rue, mais quand elles y étaient, elles ont droit qu'à certaines possibilités chorégraphiques, puisque les autres sont vulgaires, voire pire que ça. Et l'État, pour des raisons qui n'ont rien à voir avec l'art, finance des lieux avec des cours, et les femmes rentrent dans le hip-hop. Et elles font partie de celles qui vont participer à la professionnalisation du hip-hop comme une danse. Donc avec des femmes, du coup, qui se retrouvent d'ailleurs souvent plutôt dans la position féminine du chorégraphe que dans la position masculine, dans ce monde-là, du danseur. Et elles montrent très bien comment là, on a un dispositif public qui a ouvert la porte aux femmes, sans volonté dans ce cas-là de l'ouvrir, mais ça a eu cet effet-là. On a d'autres choses. J'avais fait faire un mémoire, enfin, plutôt j'avais accompagné un mémoire sur la musique du rock, qui montrait que le fait qu'il y ait beaucoup de studios, en partie financés par l'État, là encore, ou les collectivités territoriales, parfois juste pour manier le territoire, là, les jeunes filles qui n'ont pas accès aux groupes de potes, sauf comme groupies, éventuellement comme chanteuses, vont dans les studios et éventuellement, là, peuvent faire de la musique. Parce que dès qu'elles arrivent dans les jams, elles se font piquer la guitare, etc. Donc, là, dans le contexte de... Elles peuvent être guitaristes, batteurs, etc. Donc, vous voyez, il n'y a pas nécessairement de volonté officielle de parité, mais on a des dispositifs. Donc, évidemment, c'est le fait que les femmes sont plus souvent dans les conservatoires aujourd'hui ou les écoles des beaux-arts, où non seulement elles accèdent au lieu, mais deuxième raison pour laquelle ça fonctionne comme ça, elles acquièrent des savoirs qu'elles n'auraient pas pu acquérir sur le mode de l'autodidaxie ou de la transmission entre potes. Hein, donc ça, c'est constaté par exemple par Hyacinthe Ravé, Philippe Collongeon, quand ils regardent la comparaison entre musique dite savante et musique dite populaire, il y a beaucoup plus de femmes dans les musiques dites savantes parce qu'elles ont pu accéder aux connaissances là où... pour aller accéder au rap, au rock ou au jazz, il faut qu'il y ait d'abord des copains, plus souvent des copains. Et en jazz, je montrais d'ailleurs que le fait qu'il y ait de plus en plus d'écoles et de conservatoires a joué dans le fait qu'il y ait un petit peu plus de femmes, notamment dans les musiques dites improvisées. Troisième chose qui peut jouer, c'est que dans ce que montrent certaines recherches, c'est que dans ces écoles et dans ces lieux publics, dans ces festivals, on peut développer des réseaux sociaux qu'on a du mal à développer, rappelez-vous, de l'obstacle, les réseaux sociaux plutôt masculins. Un autre point qui avait été montré par Delphine Naudier sur la littérature, où elle montre qu'on a des femmes plutôt plus diplômées que les hommes, et que grâce à ce diplôme, elles osent non seulement écrire, parce que les femmes écrivent sur un plan amateur plus que les hommes, mais surtout envoyer leurs manuscrits et éventuellement se battre pour se faire publier. Parce que j'ai quand même fait telle école, j'ai peut-être quelque chose à dire, pourquoi pas moi ? Et elle montre que pour les femmes, c'est beaucoup plus important que pour les hommes. Donc je parlerai pas là du paravent qui a été utilisé en musique classique et une étude aux États-Unis qui a montré plus de 30% de musiciennes du jour au lendemain du simple fait qu'au moment de l'audition, on cachait les femmes en fait. Et elle a pu le prouver statistiquement, ce qu'on ne peut pas faire en France, parce qu'en France, parfois on met le paravent, parfois on ne le met pas, ça dépend des jours, du temps, Mais aux États-Unis, quand on met le paravent, on met le paravent. Donc elle avait 6 grands orchestres, et ses chercheuses ont montré statistiquement l'effet même de ne pas voir les femmes à l'audition faisait qu'il y en avait plus de 30% de recrutés dans les orchestres américains, début des années 80. Troisième outil de la transgression, ressort de la transgression, moins fort que les deux précédents, mais important quand même. Le couple homogame professionnel. C'est-à-dire qu'en fait, on constate, notamment dans les mondes très masculins, ou dans les hauts niveaux de la hiérarchie artistique, que souvent, les femmes, souvent, enfin, il arrive régulièrement qu'on trouve des femmes en couple avec un artiste équivalent. Ça a même amené Odile Blin à faire une thèse sur les couples d'artistes plasticiens, pour essayer de voir ce que ça donnait, du coup, en termes de création, de relations, de pérennité dans le temps, parce que les couples en art n'ont pas des durées de vie nécessairement... calqué sur les durées de carrière artistique. Il y a des couples qui disparaissent et d'autres qui se reforment. Et donc là, on montre chez les musiciennes, ça a été montré chez les peintres d'eau forte, mais à la fin du 19e, dans le jazz. Et ce couple-là, il a une vertu, entre guillemets, quand on regarde pourquoi il fonctionne, c'est qu'en fait, il protège les femmes musiciennes des mécanismes, des obstacles. Accès à des réseaux sociaux, de manière plus favorable. Ce qui peut amener d'ailleurs, dans mes interviews que j'avais avec certaines femmes musiciennes de jazz, me dire « Ah, je préfère jouer avec mon mari, je me sens protégée. » Donc c'est aussi meilleure protection face aux stéréotypes, c'est-à-dire que c'est pas seulement accès aux réseaux sociaux, mais c'est aussi, on est dans un contexte où la réputation est en partie gérée par le compagnon. Donc ça, bon, c'est le côté... Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve chez les femmes professeures en mathématiques, étudiées par Bernard Zarka. C'est un phénomène, l'homogamie professionnelle, qu'on retrouve chez les ingénieurs étudiés par Catherine Marie. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est spécifique au monde de l'art. Mais cette homogamie professionnelle, parce qu'elle donne accès plus facilement à des réseaux sociaux, qu'elle protège des stéréotypes, hein, donc les obstacles dont j'ai parlé tout à l'heure, aurait tendance à être favorable aux femmes qui en bénéficient. Sachant que c'est une aide, mais c'est aussi une faiblesse, dans le sens où quand le couple s'arrête... J'ai pu le prouver, par exemple, sur les musiciens de jazz. Comme le réseau est le réseau de l'homme, la femme doit reconstituer son réseau. Donc c'est une arme à double tranchant, si on peut dire, qui n'est pas du tout vécue, en tout cas dans l'enquête que j'ai faite sur le jazz, je ne peux pas parler pour mes collègues, c'est pas du tout vécu sur ce monde-là. Elles sont amoureuses, il est amoureux, on est ensemble parce qu'on a envie d'être ensemble et de créer, de faire des choses, et c'est super de mélanger tout, la vie privée, la vie professionnelle, enfin... On est dans quelque chose... On est conscient du dénigrement, ce qui fait qu'un chercheur extérieur, il faut souvent que ce soit lui qui en parle pour que la question soit évoquée, pour l'homme comme pour la femme. Mais c'est vécu d'abord sur le plan des sentiments, et quand les sentiments ne fonctionnent plus, on se quitte. C'est des mondes assez exigeants de ce côté-là. Mais n'empêche que quand on se quitte, l'homme garde le réseau et la femme tend à ne pas le garder. Donc ça, là, j'avais une chance méthodique, c'est que les couples en jazz durent rarement plus que mon enquête, beaucoup plus. Donc je pouvais voir... des effets. Et parfois, je regarde encore aujourd'hui, je regarde, mais tiens, on ne la voit plus, et je me dis, tiens, elle ne doit plus être en couple, et j'apprends après qu'elle n'est plus en couple, effectivement, le temps qu'elle revienne ou pas. Donc souvent, elles vont aller travailler dans d'autres mondes, la danse, le théâtre pour accompagner la musique, ou la musique pour enfants, enfin, c'est autant d'exemples que j'ai en tête. Quatrième mécanisme qui est très lié au troisième, s'organiser pour créer dans des conditions protégées. C'est-à-dire qu'en fait, on trouve dans les différents cas traités que les femmes artistes peuvent bénéficier du fait qu'il y ait des occasions de travailler qui leur soient dédiées. Donc ça peut être des groupes de femmes, ou des associations de femmes, ou des ateliers de femmes. Ça peut être ponctuel, ça peut être pérenne. Ce qui est intéressant de ce que moi j'ai pu voir, c'est que cette réalité peut être liée, et ça va être traité par mes collègues après moi, à des actions féministes, venant des artistes ou venant de gens qui ne sont pas artistes, mais qui ont envie qu'il y ait des femmes artistes. Donc, Diane Lamoureux a montré au Canada comment les festivals pour femmes, les associations de femmes, suscitaient du travail, tout simplement, des possibilités d'exposer, de créer, d'exister. Donc, je l'ai vu dans le jazz, le simple fait qu'il y ait des gens parfois qui, pour des raisons militantes, donnent des possibilités de créer, font qu'elles peuvent accumuler des dates et éventuellement avoir le fameux statut de l'intermittence et rester dans la création. Donc ça peut être lié, et bon, je pense que mes deux collègues reviendront beaucoup plus précisément sur le lien qui peut s'établir entre la place des femmes artistes et les mouvements féministes. Mais ça peut être aussi lié à des raisons parfaitement commerciales. C'est-à-dire qu'on trouve régulièrement, il y a une certaine séduction venant du public au regard de la femme artiste. Donc, Françoise Escal, qui travaille sur la musique classique, montre que parfois mettre une femme artiste sur une affiche, c'est quelque chose de vendeur. Faire un groupe de femmes, c'est quelque chose qui peut être vendeur. Moi, j'ai rencontré ça dans le jazz, avec plusieurs groupes de femmes qui avaient été créés à l'initiative d'hommes, ou de femmes d'ailleurs, producteurs, et pas du tout à l'initiative des personnes concernées. Elles l'avaient fait parce que ça leur permettait de bosser avec des collègues de qualité, pourquoi pas. Et puis, on peut avoir un dernier cas, qui est observé par exemple en rock par Odile Tripier, de femmes qui ont envie de travailler qu'avec des femmes parce qu'elles en ont marre des mecs et du fonctionnement masculin. C'est peu observé dans les cas que j'ai trouvés, mais peut-être qu'on n'est pas allé assez loin ou de manière assez approfondie. On n'a pas beaucoup d'enquêtes. Je fais une synthèse d'enquêtes qui sont quand même encore très partielles et très, très peu approfondies. Mais là, bon, du coup, va être dit clairement, là, on a envie d'être... Alors, moi, j'ai rencontré quelques femmes qui disaient, moi, là, j'étais contente de travailler ce groupe parce que ça calmait un peu le jeu, c'était beaucoup moins affirmé, beaucoup moins revendicatif. Et on n'était pas obligé de... On était dans quelque chose de beaucoup plus sain. Mais c'était assez rare. Et voilà, ça a été remarqué dans le rock. Donc, je vais conclure là-dessus. Donc, pour revenir un petit peu sur l'esprit de cette conférence, on est encore au début du XXIe siècle dans une situation où c'est plus difficile en moyenne pour des femmes que pour des hommes, dans des mondes qui sont globalement difficiles pour tout le monde. Et ça, qu'on soit dans le cirque, la littérature, les arts plastiques, bon, les preuves vont plutôt toutes dans le même sens. Et les obstacles que j'ai évoqués les processus sociaux que j'ai évoqués sont souvent ceux qui apparaissent comme très déterminants. Stéréotypes, réseaux sociaux, conciliation vie professionnelle, vie privée, la surreprésentation des femmes dans les arts peu valorisés, avec du coup, quelle est la poule et quel est l'œuf ? Ceux qui valorisent des arts en disant que certains sont mieux que d'autres, ou celles qui vont dans les Césars qui sont peu valorisés. Hein. Donc ça se joue vraiment dans les deux niveaux et les analyses le montrent très bien. Et puis des ressorts de transgression qui sont assez nombreux, et qui expliquent, sinon on ne pourrait pas comprendre. Et comme dans les autres mondes professionnels, les règles, les écoles, le fait qu'il y ait des dispositifs légaux, comme dans les autres professionnels aussi, l'homogamie professionnelle qui peut être une protectrice. La manière dont les femmes aussi vont se saisir d'associations avec d'autres femmes, soit pour des raisons commerciales, soit pour des raisons politiques, soit pour des raisons subjectives, intimes, mais au final, ça leur permet de créer plus souvent, de manière plus affirmée. Et puis, ce que je vous ai dit d'autre comme autre ressort, je suis en train même d'oublier ma présentation. Et donc, le fait de la sursocialisation familiale, qui surprépare entre guillemets les jeunes femmes, sachant quand même que globalement on est dans des mondes de plus en plus féminisés où les femmes prennent de plus en plus de place. Et quand même, c'est ça que montrent les études aujourd'hui, hein, les dynamiques de féminisation à tous les niveaux des hiérarchies artistiques. Pour terminer, ce qui moi me frappe maintenant que j'ai un petit peu avancé sur ces questions-là depuis un petit moment, depuis quelques années, c'est que finalement, les mondes de l'art, qui se veulent souvent quand même à l'avant-garde et plutôt montrant le chemin, se révèlent ici plutôt peu avant-gardistes. Hein, c'est-à-dire qu'on a, finalement, le monde de la police s'en sort pas beaucoup plus mal, statistiquement et en termes de reconnaissance, voire même Geneviève Prouveau montre que dans la police, finalement, la féminisation, on est encore à 14-15% de femmes, hein, donc c'est quand même pas très avant, enfin, c'est pas un monde extrêmement féminisé, mais ça se passe par le haut, c'est les commissaires. Il y a plus de femmes commissaires en proportion que de femmes qui sont dans la rue. Donc, même s'ils sont pas plus féminisés, il faut pas non plus exagérer, cette féminisation se fait par le haut, entre guillemets. Bon, je ne parle pas des magistrates où maintenant on est à parité, des médecins où on est à parité. Alors évidemment, plus on monte dans la hiérarchie, plus c'est masculin, hein, les chirurgiens. Mais somme toute, on est quand même dans une parité. Bon, les enseignants du secondaire, on a carrément transformé le métier en métier féminin. Mais le professorat, on est à 20% à peu près de femmes à l'université. Donc on a quelque chose qui est quand même étonnant. C'est-à-dire que l'art est plutôt une expression normative du social, pour ce qui est en tout cas des rapports hommes-femmes. Et puis j'ai l'impression que si on allait regarder du côté des origines sociales ou des origines ethniques, on n'irait pas beaucoup plus loin. Et donc il est plutôt régressif. Alors, une des hypothèses qui est pas mal avancée, c'est que bah, le fait qu'il y ait finalement peu de protection légale et peu de mécanismes égalitaires fait qu'on laisse les êtres humains se comporter de la manière peut-être pas nécessairement la plus avant-gardiste en termes sociaux, en tout cas, d'un point de vue de sociologue. Merci.
Merci Marie Buscato. Si vous avez des questions, on a parcouru énormément d'art différents. C'était très impressionnant d'ailleurs de passer d'un art à l'autre. Toutes ces synthèses d'études. Vous avez la parole, oui.
Moi j'ai une question. En fait, j'ai peut-être eu un moment d'une attention, mais je crois que vous parlez soit pas, soit très rarement de l'architecture. Est-ce que c'est un choix délibéré de votre part?
Non, je connais. Il y a une enquête de Fowler sur le monde des architectes, qui était dans mes exemples d'ailleurs. Où là, on est dans un monde déjà pas mal. Alors, c'est en Angleterre. Je connais pas de. Je connais les gens qui travaillent sur l'architecture. Pour le moment, on peut travailler sur les femmes, à ma connaissance. Je peux me tromper. Et qui montre qu'on a les mêmes phénomènes que je vous décris, sachant quand même qu'on est dans un monde déjà qui a 30-40% de femmes. Donc. Par exemple, l'avantage social est en train de se réduire. Les hommes et les femmes se ressemblent de plus en plus socialement, familialement. Sauf que les hommes sont toujours en haut de la hiérarchie. C'est plutôt eux qui ont les prix, les quarts d'argent, etc. C'est pour l'Angleterre. Donc, ce n'est pas du tout volontairement. Sachant quand même qu'en permanence, quand on commence, il y a les arts qu'on va dire reconnus comme tels et qui seront centraux, comme les arts plastiques, le théâtre, la musique. Et puis on a les arts dits mineurs, déjà, donc nous, moi je les intègre, le cirque, qui sont dans des processus d'artification, on va dire, le cirque, la télévision que j'ai abordé. Et puis on a des domaines comme l'architecture, où on est entre art et profession. C'est-à-dire que mes collègues travaillent sur l'architecture, comme son nom m'échappe, mais je vois très bien sa tête, Florent Champy. Lui, il regarde vraiment l'architecture comme une profession. Avec une convention esthétique, enfin l'esthétique est importante, mais il y a aussi un ensemble d'éléments qui en font une profession entre l'ingénierie et l'art. Voilà. Donc c'est ça qui fait que du coup, c'est pas nécessairement là que je vais centrer mon raisonnement, pour qu'on me dise pas derrière, oui, mais ça, c'est pas vraiment un art. voilà. Mais sinon, Brigitte Fowler, c'est un bon texte, c'est celui que je connais qui est le plus précis sur ces questions-là, architecte anglaise. Un peu daté maintenant, mais quand même.
Est-ce qu'il y a d'autres questions sur d'autres arts?
Moi, juste pour dire que ce que vous décrivez finalement, c'est dans tous les pays pareil, c'est dans au niveau de toutes les classes sociales pareil, globalement. Est-ce que François Zelletier a parlé de cet invariant, par exemple, qui est la domination masculine?
La différence valentielle des sexes, la différence valentielle des. Oui. Ouais. Alors attention, ça c'est intéressant votre question aussi, dans le sens où j'ai eu la chance de publier dans les cahiers de musique traditionnelle et les exemples de l'Ouzbékistan, des pays d'Afrique, etc. C'est quand même différent, déjà si on est sur des musiques traditionnelles ou si on est sur des pays où les rapports hommes-femmes sont beaucoup plus réglementés, parce qu'on n'est pas dans la levée des barrières formelles. Voire même, c'est de père en fils. Donc, on peut avoir des spécialisations familiales, c'est-à-dire que c'est un certain groupe social qui va faire de la musique, soit parce qu'ils sont, on leur attribue une qualité religieuse, soit parce qu'on leur attribue une absence de qualité, genre on les associe à la prostitution ou au bas-fond. Enfin, vous voyez, les arts sont devenus prestigieux dans les mondes occidentaux, ce qui n'est pas le cas dans tous les pays. Donc, déjà, première chose différente, et les rapports hommes-femmes, c'est par exemple. J'aime bien les musiques dites du monde. Je vais écouter de la musique iranienne. Par exemple, les femmes doivent jouer devant des femmes dans des contextes iraniens. Les hommes doivent jouer devant des hommes. C'est-à-dire qu'on est dans des contextes tellement différents que je les exclue. Donc, je reste vraiment comme sur les pays occidentaux. Deuxième point, là, j'avais un exemple que je n'ai pas donné d'un texte qu'on avait d'Abir Krefa dans les actes de colloque qu'on a co-organisé en septembre sur les romancières tunisiennes, où on voit bien que les questions, par exemple, d'articulation vie privée et vie professionnelle sont beaucoup plus lourdes. Les femmes sont dans des rapports sociaux, sur les questions de rapport homme-femme, il y a encore des inégalités à l'héritage, des inégalités, des stéréotypes sur la maternité. On n'est pas dans les mêmes sociétés. Donc j'ai tendance quand même à dire, je parle plutôt des sociétés occidentales contemporaines pour les deux raisons que j'évoque. C'est-à-dire, la musique n'a pas nécessairement la même place dans les sociétés, et même quand elle a cette place occidentale où c'est devenu un métier comme un autre, on va dire, les rapports sociaux, homme-femme ou femme-homme, sont très différents.
C'est une question qui s'adresse à la sociologue en général.
Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Bonjour à la conférencière. C'était une question qui s'adresse à la sociologue globalement. Est-ce que dans nos sociétés occidentales, aujourd'hui, il existe des domaines qui ont atteint ou qui sont sur le point d'atteindre le point d'équilibre dans le rapport homme-femme, féminin, masculin? Et si oui, comment ça se passe?
Alors là aussi, il y a deux constats, on va dire, toujours sur les sociétés occidentales contemporaines. Ce qu'on constate depuis une vingtaine d'années, et pas seulement en France, c'est que les ségrégations sexuelles, c'est-à-dire que les métiers féminins sont toujours plus féminins, puéricultrice, secrétaire, et les métiers masculins sont un peu plus mixtes, mais il y a quand même beaucoup de métiers masculins encore aujourd'hui, conducteurs de poids lourds, etc. Donc par exemple, il y a au Canada, en Belgique, où ils sont plus avancés sur ces réflexions, même en termes d'action politique. Ils se rendent compte dans les études économétriques, statistiques, que pour rééquilibrer les rémunérations entre hommes et femmes, il faudrait faire changer la moitié de la population de domaines, puisque les domaines féminins sont toujours moins bien valorisés financièrement que les domaines masculins. Donc on est dans des sociétés encore aujourd'hui extrêmement ségrégées, et pas seulement dans les cours d'école, je veux dire dans les métiers. Et c'est frappant, enfin, c'est 98% de secrétaires, 90% d'infirmières. Ces métiers qu'on se représente comme féminins le sont, et ces métiers qu'on se représente comme masculins, conducteurs de poids lourds, de techniciens informatiques, sont extrêmement masculins. Donc ça, c'est une première chose, et donc les arts sont là-dessus pas en différence. J'avais un deuxième élément de réponse, mais il m'échappe. Est-ce que c'est la même chose dans... Alors après, là, ce dont je parle quand même, c'est que je situe les... Pourquoi on parle de plafond de verre? Parce que je situe les arts en lien avec des travaux de Nathalie Haynik, Raymond Moulin, etc., enfin les historiens des arts, comme aujourd'hui dans une position prestigieuse. C'est pour ça que c'est difficile à comparer aussi historiquement. Les arts au Moyen-Âge, c'était vraiment des choses qui étaient très peu valorisées, voire totalement dévalorisées. Il a fallu arriver vers le XVIIIe siècle pour commencer à avoir l'idée d'art qui ne soit pas seulement au service des seigneurs. Même Mozart, il était employé de la cour. On est quand même... les artistes d'aujourd'hui, ce n'est pas les artistes du XVIe, du XVIIe, du XVIIIe, du XIXe. Au XIXe, on commence à avoir un peu l'idéologie libératrice, mais si vous aviez un enfant, vous étiez bourgeois, vous avez un enfant qui voulait être artiste, c'était dramatique. Donc je prends les arts dans les sociétés contemporaines occidentales, où ils ont une position prestigieuse, où même si les parents sont rarement contents d'avoir un enfant artiste parce que ça leur fait peur, en même temps c'est prestigieux, c'est valorisé, notamment s'il réussit, évidemment. Donc une fois ça dit, c'est là où on peut commencer à parler des femmes comparativement aux hommes, et que je les compare, comme vous l'avez remarqué, avec d'autres positions prestigieuses, c'est-à-dire policiers, scientifiques, et pas avec, ouvriers de la sidérurgie, très masculin, versus ouvrier du textile, très féminin. Donc je fais des choix qui, bon, eux-mêmes d'ailleurs, j'ai eu à justifier beaucoup envers moi-même et envers mes pères. Qu'est-ce qui permet de parler de fond de verre dans les arts? Non seulement il n'y a pas de hiérarchie, on en a parlé, mais nous on sait la reconstituer en tant que sociologue des arts et montrer qu'il y en a, même s'il y a plusieurs critères, hiérarchie commerciale, hiérarchie artistique, Bourdieu nous a beaucoup aidé là-dedans, mais pas seulement, mais aussi parce que c'est devenu aujourd'hui prestigieux, valorisé. Alors même que c'est la galère. Il y a un décalage énorme entre l'imaginaire subjectif et objectif associé aux artistes et leur réalité économique. J'étais dans une soutenance de thèse sur le cirque, un de mes collègues professeurs qui dit « Écoutez, vous avez dû faire une erreur, là, vous dites que le revenu moyen, mais c'est en dessous du RMI. » Il dit « Ben oui, le revenu moyen d'un circassien est en dessous du RMI et il bosse 70 heures par semaine. » Et les bras lui ont tombé, hein, parce que c'est, il faut voir les chiffres, c'est, hein, que certains d'entre vous vivent au quotidien.
Alors, dernière question.
Oui, bonjour. Moi, je m'appelle Anna, je fais des arts aussi de la linguistique. Et j'ai une question concernant justement la dévalorisation et le fait de nommer. Je m'explique, c'est qu'en général, les noms de métiers en haut de la hiérarchie sont masculins, monsieur le président directeur général. Alors que les métiers relativement dévalorisés, l'infirmière, la technicienne de surface, tout ça, c'est plutôt féminin. Alors, est-ce que la valorisation, la féminisation, ça passe pas par une féminisation des noms de métiers ? Est-ce que parler d'autrice, est-ce que parler de professeuse, est-ce que inventer, ou plutôt créer des féminins à partir des règles de grammaire, ce qu'on ne fait pas systématiquement dans le langage, c'est pas une solution pour faire ça ?
Je suis parfaitement incompétente.
Oui, il est consultable sur internet. Je vous recommande une petite recherche Google.
En revanche, là où je peux être plus compétente, c'est ce que montrent plusieurs recherches. Les jeunes femmes qui ont des modèles d'autres femmes qui ont réussi, qui ont passé la rampe, semble être dans des situations plus favorables pour envisager de le faire et de tenir le coup et d'avancer. Voilà, ça, c'est un des mécanismes. Hyacinthe Ravet le montre très bien sur la musique d'orchestre. On est dans une féminisation déjà un peu avancée. Bon, en jazz, il y en a tellement peu que la question ne se posait pas encore. Donc, par rapport à votre idée de est-ce qu'il y a des besoins de symboles, c'est tellement, par exemple, qu'aux États-Unis, les conservatoires de haut niveau de jazz font maintenant font venir des femmes pour parler à d'autres femmes, ils font des groupes et ils les font voyager. Alors, avec l'idée, ben voilà, il faut leur montrer des modèles, il faut les.
Ça marche.
En tout cas, ça a été. Alors, les recherches qui peuvent se poser la question, c'est-à-dire celles où il y a des modèles, il faut déjà être dans la deuxième génération, montrent que ça a un effet. C'est-à-dire, si vous avez connu une femme chirurgienne, c'est plus facile d'être chirurgienne. Donc ça, c'est un des éléments, mais souvent aussi montre que si votre mère a travaillé, par exemple le travail de Catherine Marie avec deux autres de ses collègues sur les normaliennes, montrait que plus souvent, elles avaient une mère qui avait travaillé, voire était elle-même normalienne, non, moins, en partie évidemment parce qu'il y a la socialisation qui va avec, mais parce qu'elles ont le modèle d'une femme qui se bat, qui avance et qui a pu avoir un métier, faire réussir ses études, avoir un métier tout en ayant des enfants. Et ça, c'est montré aussi chez les commissaires-priseurs par l'air commun. Enfin, on le montre dans. Donc, l'exemple, donc, le nom peut faire partie de cet ensemble. Maintenant, nous, sociologues, et alors moi particulièrement, j'ai fait le choix de m'appeler maîtresse de conférence, d'être aujourd'hui professeure. Mais est-ce que j'ai raison, est-ce que j'ai tort? J'ai du mal à dire. Voilà, là, c'est plus en tant qu'actrice que je me positionne en disant bon, allez, je vais le faire, parce que on me dit que ça peut marcher, donc pourquoi pas. Vous voyez, mais j'ai pas les moyens de. Et je pense que c'est les linguistes qui peuvent donner les réponses. Enfin, à chacun, c'est.
Votre réponse en tant qu'actrice est intéressante et significative.
Mais elle est peu constatée. Enfin, dans le domaine des études de genre, les hommes et les femmes sont assez convaincus de ça. Enfin, c'est plutôt à l'extérieur des études de genre. Quand je féminise, là, mon dernier ouvrage qui avait rien à voir, qui avait parlé d'ethnographie, j'ai féminisé. L'éditeur m'a appelé, t'es sûr, c'est lourd. J'ai dit, mais écoute, et l'Académie française, j'ai dit, écoute, l'Académie française, Vichy, pas terrible. Bon, d'accord, on va les garder. Il m'a écrit que pour ça, hein. Tout le reste, tout le reste, on l'a fait par Internet, hein. Mais ça, il m'a appelé. Mais il n'était pas prêt à ne pas être convaincu. C'est que, lui, il sait que, et moi, plusieurs de mes collègues me disent, ça me heurte quand je te lis, pourtant, toi, t'es pas. Comme j'ai beaucoup publié dans d'autres domaines, en plus, on ose m'en parler. C'est-à-dire, mes collègues qui travaillent que sur le genre, entre guillemets, elles vont moins m'entendre parler, peut-être parce qu'on va penser qu'elles sont tellement fermées dans leur truc. Donc, alors qu'en fait, c'est leur trajectoire et c'est comme ça que j'ai fait leur carrière. Moi, j'en ai une autre. Et je trouve que les deux sont nécessaires. Et le nombre de fois, on me dit, là encore, j'ai envoyé une notice pour un dictionnaire qui n'avait rien à voir avec le genre, sur le travail artistique. Mais tu veux vraiment féminiser ? J'écoute, il y en a trois féminisations, vous pouvez me les laisser quand même. Et ça les heurte. Donc, faut voir. Voilà, c'est un processus. Mais je pense que c'est un élément parmi beaucoup d'autres des modèles. Si on veut que les choses évoluent. Et alors on peut avoir aussi, oui, je voulais vous dire ça tout à l'heure, on a des cas de professions qui se féminisent à l'envers. C'est-à-dire, on a plusieurs cas intéressants. Les enseignants, c'était du secondaire, le très beau travail de Marlène Coacobito qui est historique pour montrer ce phénomène. Métier masculin, très valorisé, très bien rémunéré, il se féminise, et la dévalorisation qui accompagne. Sauf que tout le monde dit, ah ben oui, quand ça se féminise, c'est que ça dévalorise la féminisation. Et elle montre qu'en fait, c'est l'inverse. Et on a la même chose sur les vétérinaires, une très bonne enquête d'une collègue suisse qui montre ça sur les vétérinaires. Du moment où ça se féminise, les acteurs disent, c'est l'horreur, ça se féminise, ça se dévalorise. Et qui montre qu'à l'inverse, du moment où ça commence à se dévaloriser socialement, on a tendance à avoir des hommes qui arrêtent de faire le métier et des femmes qui rentrent. Et la même chose sur les pharmaciennes au Canada. Donc on a quelques cas comme ça où il faut des grosses enquêtes avec perspective historique, c'est des très lourds trucs, et qui montrent qu'on peut avoir des métiers qui se rendent... Donc la féminisation, c'est bien cette difficulté. 10%, 30%, 50%, puis après, féminisation qui rend le métier féminin et qui, pour les hommes, les dévalorise quand ils tiennent le métier féminin.
Donc, c'est pas lié aussi à l'argent.
Alors, ça peut être lié... L'argent est une des formes de prestige.
Voilà.
Alors attention, nous, ce qu'on essaie de faire quand on est sociologue, c'est pas de se poser la question est-ce que c'est l'argent qui compte ou autre chose, c'est de regarder les critères de... Donc par exemple, tout à l'heure, je vous disais, il y a une hiérarchie artistique et une hiérarchie commerciale. Les poètes qui sont en haut de la hiérarchie artistique sont en bas de la hiérarchie commerciale. Sébastien Dubois l'a très bien montré, ils n'en vivent pas, généralement ils sont profs, voilà. C'est-à-dire qu'on peut vraiment, dans les domaines, et c'est pareil dans le reste des domaines, c'est-à-dire qu'il y a des professions à très haut prestige, par exemple les scientifiques, les professeurs d'université, alors qu'ils ont des niveaux de rémunération qui peuvent être équivalents à des infirmières-chefs. Personne ne l'entend dans la société d'ailleurs, parce que la valorisation symbolique peut compenser, du point de vue des individus, la valorisation économique. Et du coup, nous, ce qui va compter en tant que, quand vous êtes en étude de genre, c'est vous demander est-ce que c'est valorisé. Après, vous demandez quel est le critère de valorisation. Est-ce que c'est économique, symbolique, social, enfin, il peut y avoir différentes... Mais vous commencez d'abord par vous dire, est-ce que, pour fixer des hiérarchies, il faut commencer à se demander qu'est-ce que les gens veulent. Et il est vrai qu'il est possible, mais là, moi, je n'ai pas trop les moyens de vous répondre, qu'avec l'argent moteur, l'argent soit plus un critère qu'avant. Mais... Je ne suis pas sûre, en fait. Mais... Sinon, il n'y aurait pas tous ces aspirants au monde de l'art. C'est totalement aberrant.
Vous allez dire à la retraite, mais...
À la retraite, bah, écoutez, c'est l'idéal pour être artiste, en fait. Hein.
Marie Piscato, merci beaucoup.
Merci beaucoup.